France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture pour Solae, le rendez-vous protestant, votre émission du dimanche 8h30 qui vous est proposée par la Fédération protestante de France. Une émission où la foi, la culture et la création se rencontrent. Et ce matin précisément, c'est un double mouvement que je vous propose. D'abord la Bible quand elle devient poème, souffle, matière littéraire avec le théologien et écrivain Philippe François, à l'occasion de la parution de son livre « De la Bible au poème » chez Labor et Fides. Et puis en seconde partie, le cinéma comme lieu d'hospitalité, de réflexion, d'espérance, avec une interview de la réalisatrice Erige Seiri pour son film « Promis le ciel », sorti mercredi dernier, où il est aussi question de foi, de migration, de communauté protestante, de solidarité et encore de liens familiaux. Philippe François, bonjour.
Bonjour Jean-Luc Gadreau.
Vous êtes théologien, pasteur, essayiste. Vous publiez chez Labor et Fides « De la Bible au poème », livre qui vient après un premier qui était sorti en 2020, « Anthologie protestante de la poésie française », pour lequel je vous avais d'ailleurs reçu dans Solae.
Exact.
En distanciel, je crois.
Absolument, c'était la période Covid.
Eh oui. Ce second livre où vous explorez la manière dont la Bible traverse la poésie ancienne et moderne et comment les poètes, croyants ou non, la réinventent par la langue. Racontez-nous votre intention avec ce deuxième ouvrage.
Alors, il se trouve que j'aime la Bible, il se trouve que j'aime la poésie, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'ouvrage sur le sujet, en fait, vraiment. Et donc, je me suis proposé de rédiger une anthologie biblique de la poésie française, et ce qui permettait de relire toute la poésie française à l'aune du texte biblique, c'est-à-dire qu'on a observé les poèmes et recherché les poèmes qui avaient des références bibliques. Alors, ça peut être des paraphrases directes du texte, ou ça peut être beaucoup, beaucoup plus lointain comme référence, mais l'idée, c'est la référence biblique.
Alors, comment avez-vous construit, sélectionné et après organisé tout ça?
Alors, je me suis intéressé à trois choses en particulier qui ont guidé ma recherche. La première, ce sont les débuts. Donc, les débuts, c'est Clément Marot et les protestants. Mmh. Donc, c'est le psautier huguenot. Marot va mourir malheureusement assez tôt. Il va être remplacé par Théodore de Bèze, mais c'est une première entreprise gigantesque, coachée par Calvin lui-même. Et puis ensuite, je me suis intéressé aux grandes œuvres. Alors ça peut être les tragiques d'Agrippa d'Aubigné, ça peut être la Semaine de Dubartas, qui est une réécriture du récit de la Genèse en vers. Ça peut être les Cantiques spirituels de Jean Racine. Et puis la dernière grande œuvre en date, c'est la Bible dite des écrivains, la Bible Nouvelle Traduction, qui a été dirigée par Frédéric Boyer autour de l'an 2000. Et je me suis aussi beaucoup intéressé aux choses un peu étranges, des choses un peu bizarres, comme par exemple La Fontaine, qui n'est pas connue pour ça, qui a traduit, versifié un psaume de la Bible.
Il y a des choses aussi plus contemporaines, plus modernes?
Oui, j'étais jusqu'au XXIe siècle, donc il y a ce grand ouvrage dirigé par Frédéric Boyer,
ouais.
Et notamment la traduction des psaumes par Olivier Cadieux, qui est un chef-d'œuvre absolu.
Ouais, il y a même du M.C. Solar dedans.
Alors je me suis aussi intéressé, je m'intéresse beaucoup à la pop culture, donc il y a du M.C. Solar, il y a du Serge Gainsbourg, il y a des choses comme ça aussi, oui, on ne s'est rien interdit.
Et après l'organisation de l'ouvrage?
Alors une fois que j'avais fait le tour de la poésie française, enfin on ne fait jamais le tour, mais disons qu'une fois que j'avais suffisamment de textes, je les ai classés par livre biblique, c'est-à-dire que mon premier chapitre est sur les textes qui parlent de la Genèse, le deuxième c'est Adam et Ève, le troisième c'est Caïn et Abel, etc., etc., jusqu'à l'Apocalypse. Donc il y a, je crois, 34 ou 35 chapitres en tout qui suivent donc l'ordre des livres bibliques.
De la Bible au poème, avec un point d'interrogation, qu'est-ce qui se passe selon vous du texte biblique à l'écriture poétique?
Alors ça dépend des périodes. Comme dit au début, il s'agit de chanter la Bible. C'est la première chose.
Oui.
Donc les protestants souhaitaient qu'on chante en français, enfin Calvin en particulier. Et donc très très vite, ils se sont décidés sur le fait qu'on ne pouvait chanter que le texte biblique. Et donc il fallait pour cela des traductions d'une part, et d'autre part des traductions avec de la rime pour qu'on puisse chanter un peu comme les chansons contemporaines. Et donc c'est en fait un gros travail de paraphrase biblique, de façon à ce que ce soit des textes qui soient très structurés, très ordonnés, et qui riment pour qu'on puisse bien les retenir et bien les chanter.
Vous montrez que la Bible n'est pas seulement un livre religieux, mais une réserve de langue, d'image, de rythme. En quoi, selon vous, Philippe François, la Bible continue-t-elle de nourrir la poésie contemporaine ?
Alors, on en a fini de la paraphrase. C'est la question, je crois que ça s'appelle le grand code, c'est-à-dire qu'on considère que la Bible, pour la littérature contemporaine, est sous-jacente à beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes. Et donc la Bible a toujours une importance grande dans la littérature. Et j'ai exploré le volet poésie française. Et il y a un certain nombre d'auteurs qui continuent à perpétuer cette tradition qui est de se référer aux textes bibliques, des auteurs, tout ce qu'il y a de plus contemporain, y compris, on l'a dit, dans la pop culture.
Vous devenez en quelque sorte un expert là, de la poésie et du rapport à la Bible avec ces deux livres. Est-ce que le poète, selon vous, lit la Bible autrement que le croyant ou le théologien ?
Alors, je ne crois pas qu'il la lise différemment, mais disons qu'il en fait un rendu différent. C'est-à-dire que le poète contemporain, en général, en règle générale, parce qu'il y a aussi des gens qui sont contre le christianisme et qui écrivent à partir de la Bible, ça existe aussi, il y en a d'ailleurs quelques exemples.
Dans le livre.
Mais disons, quand c'est une approche favorable, c'est une façon de nourrir sa propre foi et de la répercuter au lecteur éventuel.
Est-ce que l'on peut dire que le poème devient parfois un lieu de prière, même quand il ne se dit pas religieux. D'ailleurs, est-ce que vous utilisez aussi de la poésie, parfois, vous êtes pasteur, dans la liturgie ?
Alors, le lieu où j'utilise le plus, et peut-être le mieux, la poésie contemporaine, c'est dans des enterrements. Donc, un pasteur préside des enterrements, et donc, le pasteur lit des psaumes. Mmh. Et donc, je lis le psaume 23 dans une traduction un peu plus ancienne, qui est celle de Second, parce que c'est un texte que tout le monde connaît, que tout le monde a intériorisé. Mais le psaume 90, je le lis dans la traduction d'Olivier Cadio, qui n'est pas connu, qui est extrêmement minimaliste, et qui se lit extrêmement bien devant une assemblée recueillie.
Philippe François, je vous propose d'entendre maintenant un court poème que vous avez choisi dans votre livre. Il s'agit de « Lazare » de Georges Aldaz dans une lecture du comédien Thierry Cazazéan.
La seule parole véritable est celle qui donne ou redonne la vie. Lazare, lève-toi, etc. Lazare étant celui, précisément, qui était mort en nous et que la parole réveille.
La poésie prend des formes, des registres très, très diverses, évidemment. On n'est pas là dans du Verlaine ou un poème qu'on apprend à l'école primaire. Je dois dire en passant que ça faisait partie, moi, de mes moments préférés personnellement à l'école. Je ne sais pas vous, Philippe.
Oui, alors à l'école, non. Au collège, non. Au lycée, non. Mais par contre, en fac, j'ai eu accès à un cours sur Rimbaud qui m'a absolument ébloui. Cours et Rimbaud. Et donc, ça a changé ma perception de la poésie. Donc, je suis un converti tardif.
Pourquoi avoir choisi Aldaz et ce Lazare-là, par exemple, dans le travail que vous avez fait ?
Alors, il faut voir comment on procède pour chercher les textes, parce que c'est une recherche assez complexe. Donc, par thème, par chapitre, on ouvre un chapitre quand il y a un grand poème sur le sujet. Et ensuite, on cherche d'autres poèmes sur le même sujet qui viennent en quelque sorte augmenter le grand poème. Alors, le texte d'Aldaz est un des textes secondaires, pourrais-je dire, sans que ce soit dépréciatif.
Négatif, bien sûr.
Mais voilà, et donc on recherche, quand on a un texte central, donc j'avais un texte central sur Lazare, et honnêtement, je ne sais plus lequel c'est, il y en a peut-être deux ou trois d'ailleurs. Et ensuite, on fait des recherches en poésie française sur tous ceux qui ont traité le sujet, et on trouve des choses parfois formidables, ce qui est le cas de ce très beau poème de Georges Aldaz. Mais j'avoue honnêtement qu'il n'était pas en premier dans ma recherche, mais il est arrivé par la suite, et il y a toujours de très très bonnes surprises de ce point de vue-là.
Même voix, celle de Thierry Cazazéan, pour un autre souffle poétique et biblique différent, Max Jacob et prophétie.
Oui, mon prophète fut en Égypte Moïse. Il annonçait le sauveur que je suis, l'agneau pascal quand vous allez le cuire. Arrosez bien avec le sang vos mains. Pour en marquer les portes au chanfrein, passez les doigts sur le bois jusqu'en haut. Ainsi Moïse annonçait le Très-Haut qui doit venir sauver ceux qu'il aime. Agneau sera dans la crèche à Bethléem, pendu au croc près de Jérusalem. Le sang d'agneau sur des linteaux de bois est présumé le sang de l'arbre en croix. Or cet agneau est aussi bien le pain, galette plate, manger, hébreu, jusqu'au levant.
Alors Max Jacob, poète, romancier, peintre, né en 1876, mort en 1944, quelqu'un d'assez mystique aussi, un peu déroutant parfois. Qu'est-ce qui vous touche chez lui dans sa manière d'habiter le texte biblique ?
Alors d'abord, la personnalité de Max Jacob, c'est quelqu'un effectivement qu'on sent quand même assez fragile. Mmh. Et d'ailleurs, il est mort de façon tragique. Et j'aime beaucoup tout ce qui est poésie un peu ludique. Et je sens ça chez lui. Il y a bien sûr les grands poètes lyriques. Moi, mon inclinaison va plutôt vers les poètes minimalistes et les poètes ludiques. Alors, mon poète préféré, c'est Clément Marot. Voilà. Mais Max Jacob fait partie pour moi de cette généalogie-là, beaucoup plus tardivement, évidemment. Et il est à la fois ludique et tragique. Et au niveau textuel, forcément, ça rend quelque chose de particulier. Et en ce qui me concerne, de magnifique.
Petite respiration musicale avec un psaume, justement, le 92, pour rester dans le registre poétique, Philippe François. Et avant d'ouvrir la seconde partie de Solae, côté cinéma, vous restez bien sûr avec moi en studio. Et puis je vous retrouve en fin d'émission.
Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes
Promis le ciel, sorti mercredi en salle, Erige Seiri signe un film d'une grande humanité présenté dans la sélection Un certain regard à Cannes. Il ouvrait cette sélection d'ailleurs. Ce long métrage poursuit le travail sensible de la réalisatrice tunisienne sur les invisibles, l'exil et la dignité. Le film raconte la rencontre de femmes d'Afrique subsaharienne dans une Tunisie fragile, traversée par l'attente, la solidarité, la peur parfois, mais aussi la capacité de faire famille autrement. Porté notamment par Aïssa Maïga, qui interprète le rôle d'une pasteur protestante. Aïssa, que nous avions d'ailleurs reçue dans Solae lors du Festival de Cannes. Promis le ciel ne montre pas seulement des destins, mais c'est un film qui interroge notre manière d'accueillir, de regarder et d'espérer. Depuis Cannes, le film a été salué dans plusieurs festivals internationaux pour sa justesse, sa pudeur, sa force politique douce. Il a remporté notamment l'Étoile d'or lors de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech en décembre dernier. Sans oublier Angoulême, le Valois du scénario, de la mise en scène et celui de la meilleure actrice pour Déborah Lobé-Nanné. Et je vous propose donc d'entendre la réalisatrice Erige Seiri répondre à quelques-unes de mes questions juste après un extrait avec une certaine teneur spirituelle. Vous verrez, on y entend Aïssa en train de préparer l'un de ses sermons.
Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia!
Alléluia!
Je déclare une année de saut, une année d'avancement, une année de progrès, une année de lumière sur toi. Aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi, c'est le début. Cette année, c'est vous qui allez témoigner à ma place. Amen.
Amen.
Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh oui.
Bonjour Erige.
Bonjour.
Et félicitations pour ce très beau film. Alors moi, c'est un film qui m'a marqué. Je l'ai vu au Festival de Cannes et ça a fait partie de mes coups de cœur pendant ce festival. Avant d'être un film, qu'est-ce que représentait pour vous ce ciel promis, pour reprendre le titre ?
Oui, bah, de toutes ces promesses qu'on se fait les uns aux autres, nos gouvernements à leurs citoyens, ou bien aux migrants même parfois, les promesses des droits humains, les promesses d'une mère à son enfant, les promesses d'une pasteur à ses fidèles. Voilà, c'est toutes ces promesses-là qu'on se fait les uns les autres. Et...
Tenues ou pas tenues.
Tenues ou pas tenues, oui.
Alors, vous filmez des personnages, mais sans jamais les enfermer aussi dans un statut. Alors, en l'occurrence, là, dans le film, statut de migrant, de victime. C'est une volonté aussi de votre part, je pense, de ne pas les réduire.
Ni des héroïnes, ni des victimes. Oui, c'est important, parce que c'est comme ça qu'on brise aussi les stéréotypes et les clichés qu'on peut avoir. Je pense qu'aussi, on parlait de pourquoi être attaché au réel. Moi, je pense que de plus en plus, avec toutes les images qu'on a, on est bombardé d'images un peu partout, entre les réseaux sociaux, la publicité, les médias, etc. Moi, j'ai l'impression que je suis plus attachée à une certaine authenticité, simplicité, de revenir sur des choses plus centrales, plus vraies, oui, parce qu'on est... On est un peu perdu dans toutes ces informations.
Il y a une manière d'orienter les choses souvent, et puis aujourd'hui en plus, le sens de la vérité peut être mis en question face à l'image avec l'IA, avec les fake news et tout ça.
Oui, donc encore plus. Moi, je pense que je suis encore plus attachée au réel que j'ai pu l'être encore avant, en réalité. Et puis, je pense que c'est raconter des histoires, nos histoires, par nous, sur nous. Quand je dis nous, je parle soit les personnes issues de la migration, soit en tout cas les personnes qui sont un peu plus invisibilisées dans le cinéma. Et je pense que c'est important d'offrir d'autres récits. Et justement, là, pour le coup, c'est la migration interne à l'Afrique dont on parle très très peu.
Alors voilà, oui, c'est quelque chose de très très peu connu. Cette migration subsaharienne, donc dans les pays du Maghreb, oui. Avec des communautés très particulières qui se construisent là, souvent en attente d'autre chose. Justement, est-ce que l'attente, c'est pas une forme de résistance déjà qui se met en place?
Alors moi, plus que l'attente, je pense que ce qui m'a intéressée, c'est l'entre-deux, cet entre-deux justement, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, cette zone un peu tampon maintenant, qui est devenue une zone tampon aussi pour l'Union européenne, pour stopper la migration. Et en même temps, évidemment, chacun raconte son récit par rapport à son propre point de vue de l'histoire. Du côté de la France, par exemple, on part de l'arrivée des migrants, du fait qu'on peut être envahi par des migrants, etc. Alors que quand on regarde les statistiques, on se rend compte que la majorité de la migration africaine se fait à l'intérieur de l'Afrique. Il y avait cette question-là, puis cette question, oui, de cet entre-deux, entre deux désirs, celui éventuellement de s'installer au Maghreb, comme une possibilité d'une autre vie, et la volonté peut-être aussi d'aller plus loin, de continuer son chemin. Et évidemment, c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que ce film, il est vraiment entre le jour et la nuit. On est beaucoup lumières du crépuscule, entre le ciel et la terre, comme la chanson le dit, entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Et puis entre la décision de rester ou de partir, qui est la décision centrale, fondamentale chez toute personne qui migre.
Le film n'est pas un film religieux, mais la question religieuse est aussi présente, avec Aïssa Maïga qui joue donc le rôle de cette femme pasteur d'une manière absolument remarquable, je trouve, personnellement. Et puis cette communauté protestante en Tunisie. Comment s'est fait ce choix? Qu'est-ce qui a influencé l'idée d'inscrire aussi ce personnage d'une femme pasteur et d'une église protestante évangélique là-bas?
D'abord parce que ça m'a beaucoup rappelé la migration des Maghrébins vers l'Europe et l'époque où ils avaient leur propre mosquée dans les appartements, dans les banlieues.
C'est vrai.
Et là, tout d'un coup, c'est inversé.
C'est
complètement. On est en terre musulmane, on va dire, d'islam, et puis c'est plutôt le protestantisme des chrétiens évangéliques, pas tous, hein. Les églises catholiques sont autorisées, par exemple, mais l'évangélisme, comme il est considéré, pas légal. Au Maroc, je pense que c'est différent, mais en Tunisie, c'est toléré, jusqu'à ce que c'est plus toléré. Donc c'est une zone de non-droit, comme ça. Mais là, on est. La question, c'est que l'église sert aussi de soutien à la population migrante. Et ça, c'est un problème pour les autorités. Tout soutien aux migrants...
Les encourage, finalement.
Exactement, encourage aussi, soutien. Et là, ça devient, tout d'un coup, l'église qui était tolérée avant devient problématique pour les autorités. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. Et surtout, j'ai fait la rencontre d'une vraie pasteur, qui est une amie, anciennement journaliste.
D'accord.
Qui s'appelle Patricia, qui vit en Côte d'Ivoire. Qui vivait en Tunisie à l'époque et qui d'ailleurs m'avait avoué avant de partir, je pense que je vais pas pouvoir rester, ça commence à être trop violent, trop difficile de rester en Tunisie. Elle y était pourtant depuis au moins 10 ans. Elle a vu l'évolution, elle a vu l'état se dégrader, enfin la situation se dégrader pour la population migrante, mais pas que. Elle a été aussi rétrogradée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle avait des documents légaux et puis tout à coup, elle en a plus. Donc c'est aussi comment on est déclassé.
Son statut change.
Son statut change. Elle a créé sa propre église et c'était constitué essentiellement de femmes. Et moi, ça m'a surprise. Je savais même pas qu'on pouvait être pasteur, femme. Et oui. Enfin, femme et pasteur. Oui, oui. Donc ça a été une grande découverte et j'ai décidé d'aller au culte du dimanche matin. J'ai découvert qu'il y avait encore une autre pasteur qui s'appelait Marie-Noël, qui joue d'ailleurs dans le film la scène avec Aïssa Maïga,
oui.
Qui vient lui prévenir du danger. Et ça m'a fascinée, ces femmes, parce que c'est un côté entrepreneuriat social, entrepreneuriat religieux.
Oui, c'est ça, le spirituel et le social se mêlent.
Oui, complètement.
Énormément.
Mais je pense que c'est un peu dans la tradition, en réalité, des petites églises,
oui,
d'avoir ce rôle associatif.
Et dans le protestantisme aussi.
Et dans le protestantisme, bien sûr. Et j'ai trouvé ça fascinant.
On est dans ce qu'on pourrait appeler une église de maison.
C'est une maison transformée en église, le dimanche.
Aïssa Maïga, donc, qui joue ce rôle de pasteur dans l'émission à Cannes, nous disait que c'était une vraie communauté, une vraie église. Les personnes qui étaient présentes là pour les scènes de célébration, de prière, étaient des chrétiens de cette église. Vous, en tant que réalisatrice, le travail justement avec donc des non-professionnels, des croyants qui sont là, comment ça s'est passé?
Ça s'est passé de manière très naturelle. Moi, je viens du documentaire, donc c'est une démarche assez naturelle. Et puis, pour moi, si le cinéma ne nous fait pas vivre des émotions et des aventures humaines fortes, où on apprend de l'autre et où on apprend d'un système aussi, je trouve pas ça très intéressant. Donc, ce qui m'intéressait, c'était justement ce mélange du réel avec la fiction, d'acteurs professionnels avec des personnes qui n'avaient jamais joué dans un film auparavant. Et chacun influe quelque chose, chacun transmet quelque chose. Et Aïssa Maïga, elle a été formidable parce qu'elle était dans le film, son rôle, c'est une passeuse aussi. Hein. Elle a été aussi dans la vie, dans son rôle de comédienne, avec cette jeune comédienne, Déborah Nanné, à qui aussi elle a transmis exactement le métier d'actrice. Et ça, c'était assez incroyable.
Déborah qui a reçu un prix à Angoulême.
Plusieurs prix. Ouais. Déborah a reçu le prix de la meilleure comédienne à Angoulême, au Festival de Marrakech.
Accueil. C'était un grand prix, je crois.
Grand prix, étoile d'or pour le film. Ouais. Et Angoulême, on a eu 3 prix. Et Déborah Nanné a aussi eu un prix d'interprétation à Tunis, au Festival de Carthage. Et pour nous, c'était très, très symbolique, puisque quand j'ai connu Déborah Nanné, elle allait traverser la Méditerranée.
Ah oui.
C'était pas du tout une comédienne. J'avais organisé des castings à Tunis. J'ai appris qu'elle n'était pas venue au premier casting parce qu'elle a dit qu'elle était suspicieuse, qu'elle pensait que peut-être c'était un guet-apens et que j'allais appeler la police. Non, mais c'est pour vous dire l'état dans lequel on était et on est et dans quelles conditions on a fait ce film. Et elle a fini par venir au troisième casting, toujours un peu suspicieuse. Et évidemment, la rencontre a tout changé pour moi et pour elle. Et elle m'a avoué quand même que pendant le tournage, elle a quand même tenté la traversée. Alors il y a un jour où on essayait de l'appeler le matin, elle n'était pas à l'heure sur le plateau. Et donc j'appelle, elle répond pas et j'étais un peu inquiète. Mais alors là, j'avais jamais imaginé, et elle me l'a avoué hier pour vous dire. Je te l'ai jamais dit, mais tu te rappelles quand je répondais pas, c'est que j'ai fait un aller-retour dans le sud. Et finalement, elle a pas pris ce bateau, et heureusement qu'elle l'a pas pris, parce que ce bateau a coulé. Et donc l'émotion du film, le moment où elle témoigne dans l'église, je pense que c'est toute cette émotion qui est ressortie dans la scène.
Oui, oui, c'est ça, il y a du vécu, en fait. Quand on parlait de réel, là, on est complètement dedans. Il y a aussi cette magnifique chanson d'Olivier Shoa, Persévère. Pour vous, qu'est-ce qu'elle, comment vous l'avez découverte, et qu'est-ce qu'elle inspire?
J'ai découverte en m'intéressant à l'évangélisme, en demandant aussi aux fidèles ce qu'ils écoutaient comme musique. Elle a beaucoup ressorti cette chanson-là. Et en plus, elle m'a intéressée, puisque moi, c'est aussi l'église de la persévérance, du film. Et puis, c'est aussi une interrogation, un questionnement sur la persévérance. Jusqu'où est-ce qu'on persévère? Est-ce qu'à un moment donné, la persévérance, c'est pas aussi se dire qu'il faut changer de chemin? Ou est-ce que c'est la persévérance, c'est de rester dans son cap, celui qu'on a décidé,
coûte
celui qu'on
coûte.
A, coûte que coûte. Et le film interroge cette question-là, il interroge aussi, le personnage interroge elle-même l'église de la persévérance. Ce plan de Dieu qui nous serait destiné, qui viendrait nous apporter la grâce et...
Tout le rapport à l'espérance qui est forcément mis aussi face aux doutes, face aux interrogations multiples qui peuvent naître.
L'espérance, le cadeau de Dieu, et qui rappelle aussi la scène de la trottinette comme un cadeau qu'on vous offre et que On vous enlève un moment. Enfin, pour moi, tout était lié, quoi. Cette chanson persévère, avec le discours de Déborah à la fin, la chanson Promis le ciel avec toutes ses promesses, l'agneau de Dieu, qui est aussi une chanson évangélique présente à la fin du film, qui est un peu l'agneau, c'est l'enfant, c'est Kenza, quoi. C'est l'enfant sacrifié quelque part.
On arrive à la fin de notre interview et une dernière question. Quand un spectateur sort de la salle, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il garde de Promis le ciel?
Qui garde toute la vitalité de ces femmes qu'ils ont découvertes dans le film, qui malgré tous les obstacles et les difficultés nous inspirent la vie, l'envie, la persévérance justement. Et puis qu'on se pose cette question de notre regard qu'on peut porter sur l'autre et comment nous-mêmes, comment l'être humain est capable de faire vivre à l'autre ce qu'il a vécu lui-même. Et là, je parle de la question de la migration, mais ça peut être aussi l'Israël et la Palestine, je sais pas.
Bien sûr, ouais.
Tout, en fait. En fait, et en même temps, ça montre à quel point on est tous des humains et on est tous pareils.
Merci beaucoup, Erin.
Merci.
Juste encore signaler, si vous êtes à Paris ou région parisienne, que Promis le ciel sera proposé en ciné-débat avec l'Alliance biblique au Nouvel Odéon ce mardi soir à 19h30. Et j'aurai le plaisir d'animer ce débat avec plusieurs invités en lien avec ce qui est abordé dans ce film, et notamment grâce à Gatti Baru, la pasteur du foyer de Grenelle. Philippe-François, je reviens avec vous pour une dernière question avant de se séparer. Après ces deux ouvrages autour de la poésie, peut-on s'attendre à vous lire à nouveau prochainement? Et si oui, sur quel sujet? Je crois qu'il y a des choses en cours là.
Ouais, j'ai toujours des projets. Donc, j'ai un projet sur le gospel blues, ouais, des années 1930 jusqu'à de nos jours, donc de Blind Willie Johnson à Tom Waits. Et j'écris cet ouvrage avec mon fils, ce qui me fait un plaisir intense. Qui est musicien, ouais, qui est le leader de Sinaïve. Et puis j'ai aussi un projet de mémoire pastorale, puisque je vais tout doucement vers ma retraite.
Ah.
Et j'ai vécu beaucoup de choses en tant que pasteur, et je vais essayer de les restituer sous une forme peut-être un peu poétique.
Excellent. Ben, on a hâte de vous retrouver prochainement. Donc, et puis, on rappelle donc De la Bible au poème, chez Labor et Fides, c'est l'actualité, c'est le dernier livre sorti, un ouvrage magnifique qu'il faut avoir dans sa bibliothèque si on s'intéresse à la Bible ou au poème, ou aux deux à la fois. Merci Philippe.
Merci Jean-Luc Gadron.
Ce matin dans Solae, vous l'avez entendu, la Bible est devenue poème avec Philippe François. Le ciel est devenu promesse avec Erich Seiri et ce très beau Promis le ciel en salle depuis mercredi. Un grand merci à nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis sur France Culture. C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost, et avec Pierre Henry à la prise de son. Émission que vous pouvez naturellement réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture, ou bien encore en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, ce matin à 10h, Présence protestante, votre magazine Ma Foi, et sur France Culture à bientôt 9h, les informations qui seront suivies par Talmudic avec Marc-Alain Wachnin. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain avec Martine Lecoq pour son livre Lettre à un jeune chercheur de Dieu. Et moi je vous dis très bonne journée à chacune et à chacun.